أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. La louange est à Dieu, le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation degré les plus complets et les plus parfaits soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on rappelle l'importance d'avoir la bonne intention par recherche de l'agrément de Dieu, d'apprendre la science de la religion pour avoir les récompenses. Donc nous étions dans le sujet sur les règles d'interprétation du Coran et du Hadith, et on a montré de manière générale qu'il y a des versets et des hadiths explicites qui ont un seul sens selon la langue arabe, et d'autres, donc des versets et des hadiths non explicites qui nécessite une interprétation correcte par les savants qui sont aptes à cela, pour leur donner un sens correct qui ne contredit pas les autres textes religieux, les autres versets et hadiths explicites, car il n'y a pas de contradiction dans la religion. Et que les gens égarés suivent ce qui n'est pas explicite. Les sectes suivent ce qui n'est pas explicite, ils donnent un mauvais sens selon leur passion et ce n'est pas selon des règles religieuses. Donc on a vu toutes ces preuves-là, et on a vu la croyance musulmane que Dieu, on ne peut pas atteindre sa réalité, que Dieu, on ne peut pas l'imaginer, qu'il n'a pas de début, qu'il n'a pas de fin, qu'il n'a pas de semblable, qu'il n'a pas d'égal. Donc on est arrivé. On a montré Istawa au-dessus de Dieu aussi. Ça veut dire Dieu domine le trône, préserve, maintient en existence. C'est un sens dans la langue arabe du mot Istawa et qui est digne de Dieu. Et Dieu existe avant le trône, il n'a pas besoin du trône. On ne lui attribue pas le fait de la quantité à Dieu, ni l'établissement, ni la position assise, ni la direction. Tout ça, c'est du shirk, c'est un blasphème. Donc, c'est attribuer à Dieu des associés, attribuer à Dieu des semblables. Ça contredit la croyance des prophètes, la croyance de l'islam. La seule croyance conforme à la raison. Donc, on a montré cela. Et Nour, Allah Nour, Samawati wal Ard. Ça veut dire que Allah guide vers la lumière de la foi. Donc on ne dit pas que Dieu est lumière, dans le sens le contraire de l'obscurité. Donc on a vu des interprétations, notamment par Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète, alayhi salat wa salam. Donc réviser ces choses-là, ça permet de les retenir mieux. Donc le fait de répéter, ça permet de retenir. Donc on est arrivé au hadith non explicite pour voir des exemples. Donc les hadiths non explicites, Al-Bukhari a rapporté que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Donc c'est un hadith non explicite, et ici il veut dire, bien sûr, il y a sept catégories de personnes que Allah protégera à l'ombre du trône. Le jour, il n'y aura pas d'autre ombre que l'ombre du trône. Donc ici, في ظله, bien sûr, ne veut pas dire que Dieu il a une ombre, mais c'est Et ici, on a vu ce genre de figure de style, donc dans la langue arabe, c'est-à-dire l'ombre. Donc, c'est là, il y a une omission ici. C'est un majaz ou hadaf, sens figuré par omission. c'est-à-dire dans l'ombre donc du trône qui appartient à Dieu, créé par Dieu. Donc le prophète, il cite qu'il y a sept catégories, et puis il y a d'autres, mais dans ce hadith-là, il cite sept. Un imam juste, un jeune homme qui a grandi dans l'adoration de Dieu, deux personnes qui sont aimées pour Dieu, ils sont conseillés mutuellement, et ils sont interdits le mal mutuellement par recherche de l'agrément de Dieu. Etc. Ici, de cette catégorie. Donc, dans ce hadith, il s'agit d'une indication que l'ombre en question correspond à l'ombre d'une chose honorée, at-tashrif, selon le jugement d'Allah. Il s'agit du trône. Ce hadith ne signifie donc pas, comme le prétendent faussement les mujassima, ceux qui attribuent à Allah le corps, que ces sept catégories de personnes seront sous l'ombre de Dieu au jour du jugement. Donc ça, ces égarés ont clairement affiché leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce hadith une telle signification. Donc ceux qui attribuent à Dieu la ressemblance, le corps, c'est ce qu'on appelle les anthropomorphistes, al-mujassima en arabe, et il existait avant, sous différents noms, et ceux qui les suivent à notre époque, ce sont les wahhabiyas. Donc, autre exemple aussi, Al-Bayhaqi a rapporté dans son livre Al-I'tiqad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma min qalbin illa bayna isbi'ayni min asabi' ar-Rahman in sha'a qamahu in sha'a zaghahu. Ay tahta tasarrufillahi wa qudratihi. Donc ici, bien sûr, la vraie signification, c'est: il n'y a pas un seul cœur qu'il ne soit sous la domination de Allah. S'il veut, il le met sur la droiture, et s'il veut, il l'égare. Bien sûr, la volonté de Dieu est éternelle sans début. Dieu ne change pas, comme on dit dans les pays musulmans. Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar. Dieu fait changer les créatures, lui, et lui ne change pas. Il fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc, bien sûr, le sens correct qui est conforme avec les expressions utilisées par les Arabes, c'est ici le sens de la domination, du fait que les cœurs des gens sont sous la domination de Allah. Là encore, ce hadith n'est pas à prendre selon le sens apparent. Ceux qui le prennent dans le sens apparent s'imaginent qu'Allah aurait deux doigts avec lesquels il ferait changer le cœur des gens. Donc c'est un peu comme l'expression en français, il a la main mise sur telle chose. Quelqu'un, il a la main mise, ne veut pas dire l'organe ici, je veux dire la domination. Donc il y a des expressions en arabe de ce genre, pour indiquer la domination, il y a une expression qui est employée. Donc autre exemple aussi, Al-Bukhari a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته. Donc le vrai sens du hadith, lorsque l'un de vous est dans la prière, certes il implore, il invoque son Seigneur, qu'il ne crache pas en direction de la Qibla, ni à droite. Certes, les manifestations de la miséricorde de Allah sont entre lui et la Qibla. Donc ici encore, ce hadith, donc c'est été interprété ici par les manifestations de la miséricorde de Allah. Ici encore, ce hadith n'est pas à prendre dans le sens apparent, car le sens apparent ferait croire que Allah serait localisé entre celui qui prie et la Qibla, la direction par la prière. Donc le sens apparent de ce hadith signifierait que Allah serait localisé en face de chaque croyant faisant la prière. Et ce sens contredit la croyance en l'unicité de Allah. C'est pourquoi il est impératif de l'interpréter. Le sens correct, c'est qu'il s'agit ici de manifestations de la miséricorde de Allah qui sont particulières à ceux qui font la prière. Donc la prière correcte avec ses conditions, bien sûr. Donc, bien sûr, comme on l'a vu l'autre fois, si on prend tout au sens apparent, il y aurait des contradictions. si on prend tout au sens apparent, il serait devant, ou à l'Orient, en Palestine, en haut, en bas. Donc, ce qui montre clairement que les sens apparents, on peut pas les prendre. Il faut donner un sens correct. Et c'est ce qu'ils ont fait, les savants de l'islam. Al-Bukhari a rapporté également de Abu Musa al-Ash'ari que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una sami'an qariba walladhi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilati ahadikum. Qui signifie ménagez vos efforts, vous n'invoquez ni un sourd ni un être qui à qui les choses échappent. Certes, celui qui vous invoquez entend rien n'échappe à sa science et celui qui vous invoquez c'est tout de vous. Donc ça c'est la bonne interprétation. Donc le terme qarib au sujet de Allah ne signifie pas une proximité par la distance, mais il signifie que Allah c'est un autre sujet plus que ce que nous-mêmes savons à notre sujet. Il sait notre réalité, nos intentions, nos actes apparents et cachés. Il sait notre avenir et notre destinée. Il sait tout. Comme on a vu dans le verset « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » Ici, ça veut dire « Dieu sait de nous plus que nous sur nous-mêmes ». Ne veut pas dire que Dieu il serait localisé plus proche que la veine qui traverse le cou. Par ailleurs, le sens apparent de la parole وَالَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى حَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةِ حَدِكُمْ. Donc, le sens apparent serait que Allah serait plus proche de nous que le cou de la monture de l'un d'entre nous. Mais ce sens apparent est impossible selon la raison au sujet de Allah. Il contredit plusieurs textes. C'est pourquoi il est interprété par le fait qu'Allah sait parfaitement toute chose, sait tout de nous. Rien n'échappe à sa science. Donc pour ce qui est du hadith, donc ça on a vu donc quelques détails à ce sujet. Donc le hadith rapporté par Tirmidhi qui est Ar-Rahimuna yirhamuhum ar-Rahmanu irhamu man fil ardi yirhamukum man fis sama. Donc il y a une autre version qui explique cette version-là, comme on l'a déjà vu. Donc le vrai sens du hadith, ceux qui sont miséricordieux, Ar-Rahman leur fait miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, ceux qui sont au ciel vous feront miséricorde. Donc ceux qui sont au ciel, c'est les anges, vous feront miséricorde. Il y a une autre version, et dans une autre version de ce hadith, Yarhamukum ahlus sama, qui signifie les habitants du ciel vous feront miséricorde. Cette deuxième version du hadith explique la première, car la meilleure façon d'expliquer un hadith, c'est par une autre version de ce hadith, tout comme l'a dit le Hafiz al-Iraqi. Hafiz, c'est un haut niveau dans la science du hadith, qui mémorise des hadiths avec une chaîne de transmission, et il connaît, c'est-à-dire, le degré des chaînes de transmission, en connaissant l'état des gens qui rapportent, etc. Donc Hafiz, c'est pas un simple quelqu'un qui cherche dans un logiciel comme ils font les Wahhabiyas, où il lit des livres comme les gourous de la secte Wahhabiyas. Donc il y a des gens, donc il cite un, on aura l'occasion de le citer, soit déclaré sahih par un tel, et ce un tel, c'était quelqu'un qui réparait des montres, qui lisait des livres. Et maintenant, on voit dans certaines choses que les gens partagent sur Internet, ils disent déclarer sahih par un tel. Alors c'est un tel, même quelqu'un lui a posé une question en Syrie, lui a dit, un avocat syrien lui a dit, donne-nous 10 hadiths avec chaîne de transmission. Et un savant, c'est des milliers de hadiths avec chaîne de transmission. Il lui a dit, 10. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, moi je lis dans les livres. Il a dit, l'avocat lui a dit, mais n'importe qui d'entre nous peut lire dans les livres. Donc la science de la religion, c'est par transmission orale. Beaucoup, ils s'égarent de nos jours, beaucoup, ils se mènent à leur perte, ils cherchent sur Internet. Allez, je cherche ça, je compare plusieurs sites. Et souvent, ils finissent égarés. Ça devient pour eux une passion, c'est tout. Ils veulent pas, ils cherchent même plus la vérité. Ils cherchent à collectionner une quantité d'informations. Même si tu les conseilles, ils ont du mal à accepter. Ils ont vraiment du mal. Parce que c'est devenu quelque chose de passionnel. Je veux beaucoup d'informations. Je veux nager dans l'information. Même si ça lui importe qu'elle soit valide ou non. Tant que j'ai beaucoup d'informations. Et des gens, ils sont devenus comme ça. Ils sont devenus malades, vraiment. Ils ont une maladie. Ils veulent trop d'informations. Ça devient une simple curiosité, comme ils lisent les infos à droite, à gauche, et la politique. Ils veulent trop d'informations, des histoires, etc. Que pour lui, c'est comme un, voilà, comme des histoires d'un film. Mais il veut pas chercher la validité et la fiabilité. Ça, c'est un danger. Bien sûr, on rappelle le verset, Allah Ta'ala dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. C'est-à-dire, ils sont égarés, ils pensent faire le bien. Donc, penser faire le bien tout seul ne suffit pas. Donc, parce que des gens, ils croient que ça y est, du fait qu'ils s'intéressent à la religion, ça y est, ils sont protégés par Dieu, donc c'est garanti pour eux la guider, parce que c'est juste le simple fait qu'ils s'intéressent à la religion. Il y en a, ils s'intéressent à faire le bien, mais ils sont égarés. Comme le verset nous le montre. Donc il faut chercher et faire cet effort-là de délaisser les passions et chercher ce qui est conforme à la vérité, ce qui est conforme au Coran, au Hadith, aux règles religieuses. Donc comme on l'a dit, donc le terme même fissama, qui peut désigner aussi bien un pluriel qu'un singulier, est expliqué par un pluriel ceux qui sont au ciel, c'est-à-dire les anges. Conformément à ce qui est rapporté dans la deuxième version du hadith. Les égarés assimilateurs prétendent que ce hadith serait une preuve qu'Allah habiterait le ciel, car ils disent que man fissama désignerait Allah. Donc, comme on l'a déjà dit, il n'y a pas d'excuse pour celui qui pense, il penche vers une croyance contraire à la raison à cause d'un hadith qu'il a mal expliqué ou qu'il a mal compris. Il n'y a aucune excuse. Quelqu'un qui a la raison, il est jugé en islam. Et s'il a contredit la croyance, il a contredit la croyance musulmane, il a contredit donc la raison, n'a pas d'excuse. Si quelqu'un était fou toute sa vie, il ne rend pas des comptes. Mais il est pubère, il est saint d'esprit, il a entendu la base de l'appel d'islam, mais quand il suit une croyance d'égarement, s'il meurt, c'est l'enfer pour l'éternité. Donc, par ailleurs, Al-Bukhari, donc là aussi, un autre hadith en fait. Al-Bukhari a fait l'interprétation de Ad-Dhahik au sujet de Allah par Ar-Rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Ceci a été rapporté par l'imam Al-Bayhaqi dans son livre Al-Asma' wa Sifat. Le Hafiz Ibn Hajar, dans le commentaire du Sahih Al-Bukhari, a dit ce qui suit. Al-Khattabi a dit, Al-Bukhari a fait l'interprétation de Al-Dhahik à une autre occasion dans le sens de Ar-Rahma, la miséricorde, ce sont des sens proches, et s'il interprétait dans le sens de l'agrément, ça serait encore mieux. Quant aux assimilateurs, ils prétendent que Al-Dhahik signifierait qu'Allah sourit. Ils auront encore une fois de plus fait ressembler les attributs de Allah aux attributs des créatures. Donc un hadith où il dit, il est cité, Dhahik Allahu. Ça ne veut pas dire Dieu a souri, mais ça veut dire Dieu a agréé votre acte. Donc, pour sujet d'un compagnon et sa femme qui ont fait un acte de bien. Donc, le prophète il a utilisé ce terme. Comme on l'a vu dans le hadith, on l'a déjà vu au Marid Tu ibn Adam. Donc ça on l'a vu. Et ça c'est une preuve très importante. Ça ne veut pas dire que Dieu tombe malade. Mais ça veut dire mon esclave est tombé malade. C'est expliqué comme ça. Vous pouvez le revoir, il y a l'article. Donc, dans ce hadith rapporté par Muslim et expliqué par l'imam An-Nawawi. Donc ça veut dire l'esclave de Dieu est tombé malade. Il ne veut pas dire que Dieu tombe malade. Alors que c'est dit clairement Maridhu. Maridhu. Si tu prends le premier sens, c'est je suis tombé malade. Et donc, et on ne peut pas le prendre ce sens-là, c'est impossible. Car le c'est impossible au sujet de Dieu, la maladie, bien sûr. La faiblesse, l'incapacité. Donc, on a vu même comme on explique Hadith al-Jariya. On a vu aussi Hadith de la femme esclave. Donc on ne dit pas où, quand, on dit pas où, quand et comment au sujet de Dieu. Conclusion, Allah Ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ce qui signifie ne médite-t-il pas au sujet du Coran? S'il était parvenu de la part d'un autre que Allah, ils auraient relevé beaucoup de divergences et de contradictions. Si ce n'était pas une révélation de la part de Allah, il y aurait beaucoup de contradictions. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Et eux, le fait qu'ils prennent tout au premier sens, ils donnent et donc ils attribuent des contradictions au Coran et à la croyance musulmane. C'est ainsi que l'on comprend l'importance de la science du tawhid et l'importance de la parole énoncée par l'imam Abu Ja'far al-Tahawi lorsqu'il a dit وَمَنْ وَصَّفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرْ, qui signifie celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, il devient mécréant. Donc c'est un grand savant de plus de 1000 ans en Égypte, puis de 1000 ans en arrière. Donc parmi les attributs des humains, il y a les organes, les mouvements, les changements d'humeur, la localisation, la forme, la couleur, donc la quantité. Allah est exempt d'une totale exemption de toute ressemblance avec les attributs des humains. Donc, après ces quelques rappels, notre conseil pour vous, si vous lisez une ayah dans le Coran ou un hadith dont le sens apparent serait contraire ou ayah explicite, ne vous précipitez pas si vous n'avez jamais entendu l'explication de la part de ceux qui sont qualifiés pour le faire. Dites, ce texte a un sens qui est digne de Allah. Bien sûr, quand on dit lisez, celui qui dit en arabe, pas il dit en français où il y a la mauvaise explication directement. On rappelle que le Coran c'est en arabe uniquement. La Torah était en hébreu, l'évangile en arabien. Le Coran, c'est qu'en arabe. Quelqu'un qui ne comprend pas, bien, il apprend, tout simplement. Quelqu'un qui veut pratiquer la médecine, il apprend la médecine. Il ne dit pas, non, mais j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais? Mais il faut passer par l'apprentissage d'abord. La religion, tu veux réciter, tu apprends. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais oui, qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui parle le français, il parle pas l'arabe? Il apprend, dans l'islam, il y a des priorités. Il faut apprendre la croyance déjà. Les règles de croyance, la prière. Après, tu vas venir apprendre la fatiha, la réciter, etc. Il y a des étapes. Donc ne retenez pas le sens apparent, un sens qui conduirait à penser qu'Allah aurait des similitudes avec les choses qu'il a créées. Donc suivez la parole de l'imam Ahmed al-Rifa'i qu'on a vu, lui qui a vécu dans le 6e siècle de l'Hégire, qui était le savant de son époque. Il était muhaddith, spécialiste du hadith, et mufassir, spécialiste de l'exégèse du Coran. Il a dit dans son livre Al-Burhan al-Mu'ayyad, au sujet des termes suivants qui font partie de ce qui n'est pas explicite dans la langue arabe, فوق يد عين ساق نزول. Il a dit tout ceci bien parvenu dans le livre et la sunna avec un sens apparent indiquant ce qui a été cité, mais il est également parvenu dans le livre et la sunna ce qui est semblable et qui en explique le sens visé. Donc ça veut dire il y a des choses dans le Coran et le Hadith qui nous montrent que ces termes-là, on ne peut pas les prendre au sens apparent et ils ont un sens digne de Dieu. Donc la règle, c'est que attribuer à Dieu la forme, la quantité et la localisation, c'est un blasphème qui annule l'islam de la personne. Donc la personne doit délaisser la mauvaise croyance et attester qu'il n'est de Dieu que Dieu et Muhammad est le messager de Dieu pour revenir à l'islam. Donc la religion c'est facile, mais il faut donc considérer que c'est quelque chose d'important. Donc on ne va pas bâcler ces choses-là en regardant sur Google ou à droite à gauche. Donc on prend des gens de confiance par chaîne de transmission. Donc durant cette explication, on a mis en garde contre souvent. Donc on a fait six cours sur ce sujet. Et on a mis en garde souvent contre ce qu'assimile Dieu à ses créatures, représenté à notre époque, donc en majorité par la secte wahhabite. Donc, le secte wahhabite, c'est une des sectes les plus dangereuses à cette époque, parce que c'est utilisé par les occidentaux, comme il l'a dit MBS, on a propagé le wahhabisme à la demande des occidentaux. Donc, ils sont soutenus financièrement, par les armes, etc. aussi. Et leurs livres sont propagés donc en Occident pour égarer les gens. Et Allah dit dans le Coran: Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc wa law amana ahlul kitab lakana khayran lahum. Donc dans la suite du verset, ce qui signifie vous êtes la meilleure communauté qui est émergée pour les gens, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Ici les gens du livre auraient cru, ça aurait été mieux pour eux. Dans la suite du verset, ça veut dire que les gens du livre, comme on l'a montré, ils sont pas croyants parce qu'ils croient pas en Muhammad, parce que certains ne croient pas en Isa, parce qu'ils ont attribué à Dieu la pauvreté, le fait d'être localisé. D'ailleurs les wahhabiyas, ils ont beaucoup de similitudes avec les gens du livre, les mécréants des gens du livre. Donc, ce qui est cité dans les gens du livre croyants, on l'a vu, c'est ceux qui se sont convertis à l'islam. Comme le roi Négus, le savant des juifs à Médine qui s'est converti, et d'autres gens avec lui, etc. C'est cela que Dieu désigne par croyants dans le Coran. Car il y a des versets qui nous montrent qu'ils sont... ils sont pas pareils les gens du livre, les mécréants, il y a les croyants, ceux qui sont convertis. Et bien sûr, pareil, là aussi, parce que il y a aussi des règles d'interprétation, les mêmes règles s'appliquent aussi pour les autres sujets. Autre que le fait de parler de Dieu, il y a des versets non explicites que certains ils interprètent mal. Et il te dit, il croit que il y a des croyants dans les gens du livre, parmi ceux qui renient Muhammad et ceux qui croient que Dieu est un fils, etc. Parce qu'ils ont lu des versets. Et ça amène à contredire des contradictions dans le Coran, pareil. Parce que Dieu nous dit dans le Coran: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, il sera parmi les perdants le jour dernier. Et ces gens-là, ils prétendent, non, mais il y a des croyants parmi ceux qui disent que Dieu est un fils. Parce qu'ils ont osé interpréter, même des gens, on parle même aussi des gens qui sont arabophones. Ils lisent, ils interprètent tout seuls, ils s'égarent. Pareil, un arabophone ne veut pas dire devenu un savant interprète du Coran. Et souvent, quand on dit arabophone, c'est des gens qui parlent simplement la langue arabe, ça ne veut pas dire des linguistes. Donc, ceux qui croient que ceux qui disent que Dieu est pauvre et ceux qui disent que Dieu se repose le samedi sur un trône, que Mohammed c'est pas un prophète, on croit pas en lui, ceux-là c'est des croyants, celui-là il est pas musulman. Donc on l'a dit, on l'a vu dans un des cours précédents, donc le cours sur tous les prophètes sont musulmans, les interprétations de ces versets-là par les grands savants de l'exégèse, que ça parle des gens qui sont convertis à l'époque du prophète, des gens du livre, comme le très connu roi Négus, le roi d'Abyssinie, qui s'est converti, ce fut très répandu, et puis des prêtres avec lui il les a convertis, etc. Et le savant, les savants des fils de Israël à Médine, qui s'est converti dès l'arrivée du prophète à Médine, en fait. Il a posé dans une version, il a posé trois questions au prophète, que seul un prophète il peut répondre. Parmi les questions, il lui a dit pourquoi des fois l'homme, le garçon, enfin l'enfant, il ressemble à son père et des fois il ressemble à sa mère. Première nourriture des gens du paradis, aussi il lui a posé la question, le prophète il a répondu. S'est converti, il a converti des gens de sa famille. C'est cela, ils ont dit les savants, ça a été révélé pour ces gens-là. Et d'autres, des chrétiens, ils sont venus de Najran aussi, ils ont posé des questions, le prophète leur a répondu, ils sont convertis à l'islam. Alors, donc dans ce verset, déjà on voit dans Surat Al-Imran que si les gens du livre auraient cru, ça aurait été mieux pour eux. Donc voilà, amana ahlul kitabi lakana khayran lahum. Donc minhum al-mu'minun, dans la suite c'est minhum al-mu'minun wa aktharhum al-fasiqun. C'est ce qu'on a expliqué. Certains donc sont croyants, ceux qui sont convertis à l'islam, et la plupart qui sont égarés. Donc voilà l'explication de cette partie-là. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure communauté, parce que c'est le meilleur prophète. Donc cette communauté a été honorée par son prophète, qui est le meilleur, donc prophète, le meilleur, la meilleure créature, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est important, il y a un dua qu'on dit tous les jours, une évocation qui fait gagner beaucoup de récompenses, de dire Jazallahu Muhammadan anna khayra, que Allah rétribue Muhammad pour nous du bien, parce que c'est la cause, Dieu a fait que c'est lui la cause qui a propagé la religion. Comme nous on explique la religion, d'autres gens nous ont expliqué, d'autres y ont expliqué, ainsi de suite. Mais le premier, donc dans cette communauté, qui a expliqué la religion, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, comme c'est dit en Coran, il y a des prophètes avant lui. Premier prophète, c'est Adam. Donc, on est dans la communauté de Muhammad. Ça s'est arrêté. Il n'y avait plus de musulmans à un moment, et jusqu'à il est venu Muhammad alayhi wa sallam. Donc, c'est la meilleure communauté. Et bien sûr, les versets qui parlent de la communauté de Moussa, que c'est la meilleure communauté que Dieu a fait, que Dieu a fait de meilleure communauté par rapport donc à leur époque, en fait. C'est à leur époque, c'était la meilleure communauté par rapport au précédent. Donc ça aussi, c'est une interprétation. Parce que des gens, ils croient que ça mènerait à une contradiction de dire, oui, ils sont la meilleure communauté, et la communauté de Muhammad dans ce verset, c'est la meilleure communauté. Donc, l'interprétation, c'est que la communauté, c'est-à-dire les musulmans, bien sûr. Bien sûr, c'est pas les mécréants qui disent que Dieu est un fils. Les musulmans de la communauté qui ont suivi Moïse, ceux qui ont suivi Moïse pour de vrai, c'est des musulmans. Ils étaient la meilleure communauté par rapport aux précédents. Et la dernière communauté, c'est la meilleure, c'est la communauté de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et il a donné une caractéristique ici, c'est ordonner le bien et interdire le mal. ordonnez le bien, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. C'est-à-dire, ça montre, bien sûr, c'est la condition pour avoir la récompense, c'est de croire en Dieu. Sans ça, il n'y a aucune récompense. Donc, c'est un ordre important dans la religion, conseiller, montrer, et ne pas se taire face au mal. Le minimum, le prophète, il dit, on déteste. On n'agrée pas, comme, c'est pas comme certains disent, ils disent, on peut se moquer de Dieu, de ses prophètes, et on l'a vu même dans des pays arabes, malheureusement. Et souvent, ce genre de personnes, c'est la deuxième secte la plus dangereuse dans notre époque. C'est la secte des extrémistes spécialisés en attentats, etc., qui a commencé en Égypte. C'était des francs-maçons arabes. Comme la chute de l'Empire ottoman, c'était la franc-maçonnerie. Donc, un autre type de franc-maçonnerie qui était en Turquie, dont faisait partie Mustafa Kemal, que certains surnomment Atatürk, mais que les musulmans turcs, ils approuvent pas cette appellation, parce que, soi-disant, le père des Turcs, alors que loin de là. Donc, lui, les extrémistes aussi, de ceux qui disent, ils le disent même ici, en France, ils disent qu'on peut se moquer du prophète, c'est alors quelqu'un, il accepterait pas que les gens insultent sa mère. Qui accepterait qu'on insulte sa mère? Ça n'existe pas. Quasiment pas. Le prophète, il est mieux que la mère. Il est mieux que Jibril. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Donc, approuver la mécréance, c'est de la mécréance. C'est pour cela, l'imam Nawawi dit, donc on verra ça en détail, que si quelqu'un il veut se convertir et le prêcheur il dit attends, le prêcheur lui-même il sort de l'islam. Le fait qu'il lui dit attends, c'est comme s'il lui a dit reste mécréant. Et aider à la mécréance, c'est de la mécréance, et approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Donc le prophète nous dit, si on peut pas arrêter le mal, marra aminkum munkaran fali yughayyiru bi yadihi fa illa mastata fa bi lisani fa illa mastata fa bi qalbi wa dhalika adhaf al iman. Si l'un de vous, il voit une chose réprouvable qui met fin avec la main, s'il peut pas, avec la langue, s'il peut pas, il déteste avec le cœur. Il approuve pas. Sinon, c'est de la mécréance. Approuver la mécréance, c'est de la mécréance. Donc, vous ordonnez bien, vous interdisez le mal, vous croyez en moi. Donc ça, c'est parmi les devoirs dans la religion. On ne dit pas non, chacun il dit ce qu'il veut dans la religion. Donc ça, c'est interdit. Donc ainsi, parmi les devoirs de la religion, il y a le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc ça, c'est très important. Donc il y a, on rappelle, les wahhabites, actuellement ceux qui font beaucoup de mal, donc deux sectes. Donc, sans parler des chiites, ça, les gens, ils les connaissent facilement, en fait, les chiites. On n'en parle pas beaucoup, les gens, ils connaissent facilement les chiites, même ceux qui n'ont pas appris la religion, ils connaissent très facilement les chiites. Chiites, ils se revendiquent chiites, ils se revendiquent pas sunnites. Alors que ces deux sectes-là, ils se camouflent. Ils ont plein d'appellations. Ils se font appeler sunnites, salafites, et l'autre secte aussi, se fait appeler, par le terme groupe musulman ou groupe ceci, alors que ils sont loin de l'islam. Donc le fondateur de la secte wahhabite, son père, il mettait en garde contre lui, et le fondateur de la secte extrémiste terroriste, en fait, la secte de Saïd Qutb, on va dire, Hassan Banna lui-même, il a mis en garde. Il a dit, ceux-là, ce ne sont pas des frères, ce ne sont pas des musulmans. Et les deux sectes ont été épaulées par les Anglais. L'une contre l'Empire ottoman, et l'autre, c'est pour la colonisation d'Égypte. Et donc, Hassan Banna, quand il a su, certains, comment il a infiltré Saïd Qutb, qui travaillait pour les renseignements anglais et américains, c'était un marxiste irreligieux, il travaillait il travaillait même lui-même, il disait il travaillait 11 ans dans une église, il appelait les gens dans les preuves sont connues même par les non-musulmans. Il y a les magazines ou les publications de Saïd Qutb, il dit clairement pourquoi je suis devenu un franc-maçon. Il le dit clairement. Il appelait les gens à vivre nus, etc. dans un magazine qui s'appelle les Pyramides, l'Ahram. Alors les gens extrémistes dans les pays arabes maintenant, ils le prennent comme ils disent le martyr. Il suffit de voir sa photo, il ressemble à rien, à un cheikh en fait. C'était quelqu'un qui était emprisonné et qui a écrit plein d'égarements dans la prison. Il commençait à, c'est lui on va dire l'innovateur des attentats et son groupe. Bien sûr, lui, c'est les renseignements des pays occidentaux. Hassan Banna, il dit, qui est un sunnite, Hassan Banna, il dit, ceux-là sont pas des frères, ce sont pas des musulmans. Donc c'est pour ça les savants les appellent Hizb al-Ikhwan. Ils s'arrêtent à là, les savants. C'est pas comme les médias. Les médias, pour tromper les gens, ils disent salafites, sunnites, ils disent frères musulmans, exprès. Alors que les savants, ils disent les wahhabites qui se prétendent salafites pour ces gens, sectes-là. Pour la deuxième secte, ils disent Hizb al-Ikhwan, partie des frères. Il s'arrête à la frère, ça veut dire dans leur religion. Ou il y en a qui disent Ikhwan Shayatin, frère de Shaitan. Donc c'est ça le danger, l'amalgame qui met entre le salaf, qui est les trois premiers siècles, les bons musulmans, et entre le groupe de Hassan Banna originel, qui était un groupe qui enseignait, il a fait un groupe, Jamaat Ikhwan Muslimun. C'est un sunnite, il a appris la religion, il leur enseignait la religion. Et en même temps, il préparait les gens au combat contre les colonisateurs. Souvent, il faisait ça, des cheikhs sunnites. Et c'est pour cela, les Occidentaux, ils arrêtaient l'enseignement religieux. Parce que les gens qui apprenaient la religion, c'est des gens, ils n'ont pas peur de la mort, puis on ne peut pas les acheter. Ils défendent leur religion, les musulmans, et tu ne peux pas du tout les acheter. Et ça, ils l'ont compris, les Occidentaux, c'est pour ça qu'ils ont fermé l'enseignement musulman et ils ont remplacé par les enseignements philosophiques, les extrémistes, les sectes, etc. Des gens où ils se font acheter, surtout les gourous de ces sectes-là, et puis lui, il est acheté par l'argent, et puis c'est lui qui manipule les gens au bas de l'échelle. Donc c'est ça l'histoire en résumé. Très simple. Hassan Banna, quand il a su, certains ils ont suivi cet homme-là, Saïd Qutb, il a dit ceux-là ne sont pas des frères, ne sont pas des musulmans. Et ça, c'est donc rapporté par des gens qui étaient proches de lui. Comme le docteur Mohamed Al-Ghazali, il rapporte cela de Hassan Banna, qui était dans le groupe originel de Hassan Banna, qui était un groupe sunnite. Donc les deux maintenant ils travaillent pour égarer les gens, toutes les guerres là, malheureusement, regardez. Et après en Occident, les gens hypocrites te disent oui, on est contre l'extrémisme, tout ça, mais c'est eux qui financent, parce que on voit bien que les gens extrémistes, c'est pas ils ont pas des lignes de production pour faire des armes. C'est pas dans une forêt cachée qu'on peut fabriquer des armes sophistiquées. C'est de la haute ingénierie, il faut des ingénieurs de production, etc., des lignes de production. C'est complexe. Ils sont livrés par les Occidentaux. Et après, eux, ils récoltent, bien sûr, il y a un retour sur investissement, pétrole, gaz, uranium, etc. Donc ça, il faut le savoir, parce que les gens, ils sont très naïfs. Oui, Internet. Donc je vais citer, là, comme on parle de la mise en garde, des sites wahhabites très connus. Et ils sont pas inquiétés par les Occidentaux parce qu'ils savent qu'ils travaillent leur cause. Donc, comme il y a un site qui s'appelle La Science Légiférée, il est très connu, doulous.net, Donc, c'est des gens, ils sont facilités, ils ouvrent des écoles, etc. Ils ne sont pas inquiétés. Comme il l'a dit clairement, une phrase qui résume ça, le chef de la douane à Charles de Gaulle, il a dit, et ça on l'a eu de source sûre, il a dit, quand on l'a dit pourquoi les livres des Wahhabites ils rentrent en France, il a dit ils sont sponsorisés par la France. Il a donné la phrase qui résume la situation que MBS il a dit, Washington Post, il a dit on a propagé le wahhabisme à la demande des Occidentaux. Donc connaître des généralités, c'est important. Donc sans rentrer dans les détails. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Donc c'est ce qui se passe dans les pays. Ça te résume la situation. C'est la secte wahhabite. Donc c'est quoi la solution? Il faut apprendre et se protéger soi-même. Parce qu'Allah dit dans le Coran, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge la personne que ce qui est dans sa capacité. Il faut te protéger toi-même, ta famille, ou anfusakum. Préservez-vous, ainsi que vos familles, d'un feu dont le combustible sera d'homme et de pierre. Donc, on va citer le hadith, justement. Il a été rapporté dans le hadith très répandu et connu, mashhour. Donc le hadith, il dit, le prophète, donc ça c'est une partie ici, il dit que la communauté de Moussa s'est divisée donc en 71 groupes et la communauté de Issa s'est divisée en 72. Et il dit, wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ila 73 firqa. Et certes, cette communauté se séparera en 73 groupes, 72 sont en enfer et un seul est au paradis. C'est la majorité, rapportée par Abu Daoud. Donc ce hadith est très connu, il y a plusieurs versions, mais qui donne ce sens-là. Donc il parle de, après Moussa, déjà, c'est pas nouveau, après Moussa, ils se sont divisés en 71. Et après, petit à petit, ils ont disparu. Ceux qui suivaient Moussa pour de vrai. Pareil pour Issa. Et il a dit, ma communauté va se diviser. Certes, cette communauté séparera en 73 groupes. Là aussi, prophète, il n'a pas dit 73 sectes. Pourquoi? Parce que dans ces 73 groupes, il y a un bon groupe. Donc, il a employé le terme groupe, firqa. Et donc, dans ces 73 firqas, groupes, il y a un qui est bon, donc c'est pas une secte, et le reste, c'est des sectes. Voilà. Mais il dit que c'est la majorité, alhamdoulilah, c'est la majorité. Les sunnites, bon, bien, l'Indonésie, interdit le wahhabisme, là-bas, c'est 200 millions environ. Malaisie, les Ouïghours, en Moyen-Orient, les de Chem, l'Égypte. Donc, il y a les quatre écoles sunnites. Donc, les wahhabites, ils ne font pas partie des hanbalites, etc. Ils font pas partie des quatre écoles sunnites. Ils se réclament à tort des hanbalites. Donc, ça reste une minorité. Sauf qu'ils ont beaucoup de moyens et les occidentaux, ennemis de l'islam, ils les soutiennent. D'une, comme ça, pour pointer les doigts, toujours on parle terrorisme, extrémisme, mais au final, c'est eux qui les financent. Et qui les aident, et en même temps, ça leur ramène de l'argent, pétrole, gaz, uranium. On envoie les extrémistes terroristes faire le travail, et puis ils arrivent, les Occidentaux, ils récoltent le pétrole. Comme en Libye, comme en Syrie, c'est vendu au grand jour, le pétrole, etc. Et donc, certes, voilà comment le dire, ainsi ce hadith nous indique que bien qu'il y a des gens qui se réclament de l'islam, mais ils ne sont pas musulmans. Et les wahhabites qui contredisent le Coran, le hadith et l'unanimité des savants de l'islam font bien partie de ces groupes déviés. Donc, musulmans, frères et sœurs, soyez en garde et mettez en garde contre les wahhabites. Donc, ça, c'est important. Donc, parmi les savants qui ont répliqué à Muhammad ibn Abdul Wahhab, il y a son frère, le cheikh Sulayman ibn Abdul Wahhab, dans deux écrits, Fasl al-Khitab fi al-Radd 'ala Muhammad ibn Abdul Wahhab. Le discours clair pour répliquer à Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc son frère, il a répliqué en contre lui. Et as-sawa'iq al-ilahiyya fi ar-radd 'ala al-wahhabiyya. Les foudres pour répliquer aux wahhabites. Donc, les wahhabites, ils falsifient les livres, etc. Et ils accusent à tort son frère. Et c'est connu alors que c'est bien Muhammad ibn Abd al-Wahhab qui est égaré. Le grand mufti des chefs et à la Mecque honoré, Zayni Dahlan, dans son écrit Fitnatul Wahhabiyya, les discordes causées par les wahhabites, tiré de son livre Al-Futuhat al-Islamiyya. Il explique aussi ce qu'ils ont fait, ils égorgeaient les gens. Le mufti des Hanbal est dans son livre Al-Suhubul Wahhabila, Al-Adrihat al-Hanabila, il cite que le père de Muhammad c'est un savant, mais que c'est le père du égaré qui a fait beaucoup de mal. Mais il cite pas Muhammad en tant que savant. Il cite pourtant 800 savants hanbalites et savantes depuis l'époque de l'imam Ahmad jusqu'à son époque. Il est venu cet homme-là après. Zayni Dahlan et le mufti hanbalite, ils étaient des gens qui sont venus après la première phase des wahhabiyya, parce que la première phase des wahhabiyya, ils ont fait beaucoup de mal, mais ils ont été, ils étaient vaincus par l'armée ottomane, qui était en grande partie qui venait d'Égypte. Et il y a des écrits, manuscrits, donc des remerciements des savants sunnites à la Mecque et à Médine qui remerciaient l'armée donc les Ottomans pour leur intervention contre ces égarés, mécréants, irreligieux. Ils disaient comme ça clairement, ils les appelaient les wahhabis. Mais ils sont établis maintenant, c'est la deuxième phase. Beaucoup ils l'associent avec Laurence d'Arabie, qui était un missionnaire pour les Anglais, pour organiser des soulèvements contre l'Empire ottoman, etc. Là, ils leur ont donné beaucoup d'armes, etc. Ils ont repris le pouvoir jusqu'à maintenant. Donc, ils font beaucoup de mal, c'est important. Ils ont beaucoup de moyens financiers, et donc c'est important de les connaître, cette secte-là. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, pour la question, là, donc je regarde rapidement. Donc, pour lire le Coran, il faut apprendre à lire l'arabe pour ne pas lire avec la traduction. Donc, oui, il faut apprendre à lire. Donc, il faut apprendre les lettres, c'est pour ça qu'on fait, mais donc il faut directement. Donc, on apprend par transmission orale. Mais ça va aider ces règles-là qu'on va dire après, Inch'Allah. Donc, il faut apprendre exactement à réciter. Donc, ça ne se lit pas en français, comme je l'ai dit. Donc bien sûr, comme je l'ai déjà dit, quelqu'un qui est intelligent, il va dire, j'ai lu un écrivain qui prétend la traduction d'un verset est comme ça. On ne dit pas, donc c'est stupide de dire j'ai lu dans le Coran et de dire des phrases en français qui contredisent même la croyance musulmane. On dit c'est un auteur, donc qui a dit ceci et cela. Et donc on vérifie, parce qu'il faut un discours rapporté, parce que les anges ils notent ce qu'on dit. Donc pour l'invocation, c'était Jazallah Muhammadan anna khayra. On essaiera de l'écrire Inch'Allah. Donc je l'enverrai en tout cas dans la chaîne Telegram. Donc c'est plus facile, comme j'ai dit, de s'abonner à la chaîne Telegram, parce que il suffit d'envoyer une fois, ça envoie tout le monde. Alors que les listes de diffusion, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas sur WhatsApp. La Malaisie, j'ai cité un peu les pays sunnites. Et j'ai dit entre guillemets, c'était interdit le wahhabisme en Indonésie. Indonésie, la Malaisie, la masse sunnite, l'Indonésie, la Malaisie, le Maghreb, l'Afrique, Mali, Sénégal, etc., Mauritanie, l'Égypte, le Moyen-Orient, c'est quatre écoles. Généralement, c'est suivent les quatre écoles sunnites. Le wahhabisme, c'est Qatar et l'Arabie. C'est les deux pays officiellement. Mais il y a des sunnites, mais officiellement, la religion d'État, c'est le wahhabisme. Comme en Iran, la religion d'État, c'est chiite. Oui, ils ont interdit l'État, le wahhabisme. Voilà, c'est ce que je disais. Donc voilà. Barakallahu fikum, tout le monde d'assister, de inshallah, de pouvoir propager la religion correctement. Donc je remets le lien de la chaîne Telegram. Alors donc c'est Islamic FR en fait, c'est le enfin c'était qui était disponible. On va finir avec le premier cours, on poursuivra la fois prochaine inshallah. Donc on finit juste cette partie. Soyez en garde contre un groupe égaré qui a pris pour religion d'attribuer le corps à Allah et de l'assimiler à ses créatures, qui a pris pour chemin de porter atteinte aux prophètes et aux vertueux, qui a pris pour voie de déclarer non-croyants les musulmans, en les accusant d'être associateurs. Donc moi, devant moi, j'étais à la Mecque, 2001 je crois, autour de la Kaaba, quelqu'un il est venu tout content, il a touché la Kaaba avec ses vêtements, et le Wahhabite lui a dit, toi t'es mécréant. Et le prophète nous dit, من رمى مسلما بالكفر أو قال عدو الله إلا رجعت عليه إن لم يكن كما قال. Celui qui déclare le musulman mécréant, ça revient sur lui si ce n'était pas vrai. Ce hadith est très important. Il est rapporté en deux versions par le Bukhari. إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. Si l'homme dit à son frère mécréant, c'est l'un des deux qui sera chargé. Si c'était si c'était comme il a dit, donc il n'y a pas de problème, et il a entendu dire la mécréance, insulter des dieux, se moquer de l'islam, ou renier des choses connues de l'islam. Sinon, il a dit, ça retombe sur lui. Donc ça répond, ça donne le juste milieu qu'il faut suivre dans la religion. Quelqu'un qui est déclaré mécréant avec raison, il n'y a pas de problème. C'est pas l'extrémisme, le laxisme, on va dire, de ceux qui renient les règles religieuses, ils disent, tu dis n'importe quoi, tu ne deviens pas mécréant. Donc, il y a déclaration de créance avec droit, et sans droit, ça retombe sur toi. Ça montre le juste milieu. Ni extrémisme, de ceux qui déclarent mécréants sans rien comme les Wahhabis et d'autres, ni laxisme de ceux qui disent, tu déclares personne mécréant, dis n'importe quoi, il sera toujours musulman. Et ça, c'est un laxisme, donc rejeté en islam, qui mène aussi au blasphème. Donc ce groupe dévié se fait appeler à tort les salafites, pour duper les gens, mais leur vrai nom est les wahhabites. Et c'est par ce nom que les savants de l'islam les ont appelés à leur apparition. Donc le terme salaf désigne en réalité les musulmans des trois premiers siècles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayrul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum » ce qui signifie « Le meilleur des siècles est mon siècle, ensuite ceux qui viendront après eux » ensuite ceux qui viendront après eux. Le groupe des Wahhabites s'est détourné de l'obéissance à Allah et à son messager en suivant une voie différente de celle des croyants. Donc ce groupe a été fondé il y a 250 ans par un homme de la région de Najd, où se trouve Riyad. Donc leur capitale, c'est pas la Mecque ni Médine, pourtant c'est les meilleurs endroits, c'est là où vient leur gourou. Donc eux, ils ne suivent pas Muhammad ibn Abdillah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils suivent Muhammad ibn Abdil Wahhab. Ils font deux semaines de fête, alors qu'eux, ils disent bid'ah, bid'ah, innovation, innovation. Pour lui, ils font une fête pour leur gourou, ils font leurs objets dans les musées, voilà tel stylo utilisé par tel gourou. Donc les gourous sont connus, donc Uthaymin, Al-Albani, Ibn Baz, etc. Il y a des musées pour eux, alors que les musulmans, ils veulent toucher la Kaaba, ils disent t'es mécréant. Donc cet homme a réussi à fanatiser les bédouins de cette région, voilà, a été suivi par la suite par un groupuscule de gens qui a accepté sa dissension et qui l'ont à leur tour propagé. Donc il a trouvé des gens qui aiment le pouvoir, la famille Saoud, ils ont trouvé, c'est l'occasion, on a un moteur pour propager notre pouvoir. Donc ils sont alliés, donc ils l'ont utilisé lui comme moteur pour celui qui charge de la propagande, on va dire. Et eux c'est l'armement et c'est sanguinaire, c'est l'attaque, la tuerie, etc. Donc ce groupe a pris d'autres dénominations trompeuses ayant pour objectif la duperie, telles que salafite ou ansar ou sunna. Ibad al-Rahman en Afrique, ils sont appelés, donc au Maghreb, des fois, dans des régions, ils sont appelés les Malikites, etc. Maintenant, ils changent, c'est le marketing, en fait. Donc ils se font appeler, ils parlent des quatre écoles. Donc avant, quand on allait à la Mecque, ils parlent jamais des quatre écoles. Maintenant, avec MBS, ils ont pris un peu, ils sont modernisés entre guillemets. Ils parlent des quatre écoles, etc., pour attirer les gens. Et ils vont même recruter des gens dans les pays musulmans qui ont appris, et ils ramènent des valises remplies d'argent. Et il y en a, malheureusement, ils vendent leur religion. Si des gens à l'époque du prophète, il y en a, il écrivait la révélation. Le frère de la femme du prophète, de Zaynab, bint Toujahch, dont on a parlé la dernière fois. Son frère, son frère, Abdullah, il est mort martyr musulman, et son frère, il est parti, quand il est parti à l'émigration en Abyssinie, il est devenu chrétien, il est mort là-bas, alors qu'il écrivait la révélation. Et donc, il s'appelle Ubaydullah. Donc ce groupe, en raison d'énormes moyens financiers, comme on a dit, mis en œuvre pour son service, le mal de la dissension provoqué par ce groupe a pu atteindre un grand nombre de pays musulmans. Le feu de la dissension a pris et des orateurs du mal se sont manifestés, de sorte que la catastrophe s'est généralisée au point que de nombreuses mosquées d'Europe sont sous influence des wahhabites, qui se cachent hypocritement sous le nom de salafites. Donc le messager de Allah nous a bien mis en garde contre la dissension de cet homme lorsqu'on lui cita la région de Najd pour qu'il fasse des invocations de bénédiction en sa faveur. Il ne donna pas satisfaction à ceux qui le lui demandaient, mais il dit au contraire. Donc le prophète il faisait Allahumma barik fi Shamina wa Yamanina. Allah accorde la bénédiction pour notre Sham et notre Yaman. Et les gens ils disent de l'Est, ils disent Fi Najdina. Et pour Najd, au messager de Allah, le prophète il répète pour le Sham et le Yaman. Allahumma barik fi Shamina wa Yamanina. À la troisième fois, ils ont insisté de faire les invocations pour Najd. Et là, le prophète il a dit Min hayat la uqan al shaytan. Littéralement, les cornes du diable. Donc signifie cela, c'est de là qu'apparaîtra le fer de lance du diable. Rapporté par Al-Bukhari, dans une autre version, il a dit ce que signifie la fitna, la discorde viendra de l'Est. Or, à l'Est de Médine, il n'y a que Riyad et Qatar, les deux fiefs des Wahhabites. Donc, que l'on sache que Muhammad ibn Abd al-Wahhab n'est apparu qu'au 12e siècle de l'Hégire. Il a repris les thèses de son prédécesseur dans l'assimilation de Allah à ses créatures et dans la perturbation des musulmans, celui qui s'est singularisé, qui a contredit Ahl-Sunna wal-Jama'a dans la croyance et les pratiques. Donc sa référence, c'est Ibn Taymiyyah et son élève. Et Daesh, bien sûr, le livre qu'on leur donne, la propagande, c'est le livre d'Ibn Taymiyyah, qui a été jugé, égaré par les quatre juges musulmans à son époque, qui a le manuscrit donc de l'époque, donc signé donc par les quatre juges. Des Shafi'ites, des Hanafites et Hanbalites. À son époque, les juges, c'était des grands savants. Et il est mort dans la prison, Qal'a Dimashq, la forteresse de Damas. Il a été enterré en dehors des cimetières des musulmans. Et jusqu'à maintenant, il est enterré en dehors du cimetière. Et il y a une décharge à côté. Donc eux, bah, ils l'ont, avec le marketing qu'ils ont, l'argent, ils l'ont appelé, donc les grands savants de l'islam disent celui qui dit il connaît l'égarement de Moutaï, mais il l'appelle Cheikh l'islam, il s'égare. Il devient mécréant, celui qui appelle quelqu'un qui est appelé à l'égarement, le chef de l'islam. C'était des gens de savants à son époque qui étaient appelés Cheikh l'islam, mais ils ont usurpé le terme, comme d'habitude, ils l'ont donné à cet homme-là. C'était celui qui lui a répliqué, qui s'appelle As-Subki. Taqi ad-Din As-Subki lui a répliqué plusieurs fois. Dont un petit livre. Donc, au moment où j'ai vu, on me l'a ramené d'Égypte, dans lequel il cite 100 versets que le paradis et l'enfer n'ont pas de fin. 60 versets qui montrent que le paradis n'a pas de fin et 40 versets qui montrent que l'enfer n'a pas de fin. Réplique spéciale contre Ibn Taymiyyah qui a dit, qui a été cité aussi par les gourous de la secte des spécialistes en attentat, donc sur Al Jazeera. Qui est la chaîne donc de ces deux sectes, en fait, avec l'Occident derrière aussi. Donc, il disait que l'enfer a une fin, et dans le Coran, ici, Taqidin Souk, il y a 40 versets qui montrent que le paradis, l'enfer, non pas, que l'enfer n'a pas de fin. 60 pour le paradis, 40 pour l'enfer, et dans les 40, il y a 4 versets qui montrent une forte insistance, Khalidina fiha abada. Donc on reviendra sur ce détail, parce que là on est vers la fin. Donc les gens de science citent que Mohammed ibn Abdul Wahhab était grand désobéissant envers son père, le cheikh Abdul Wahhab ibn Sulayman, qui était en colère contre lui. Il voyait clair, on lui disait aux gens, vous allez voir ce que vous allez voir comme mal de Mohammed. Il voyait que son fils, il suit pas les prédécesseurs, il singularise, donc il était égaré déjà. Il suivait pas les quatre écoles. Effectivement, Allah a prédestiné ce qui a eu lieu. De même, son frère, Cheikh Sulayman, était un homme de science. Il l'a blâmé fortement en tout ce qu'il faisait ou ordonnait. Il voulait le tuer. Il voulait, en fait, Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a envoyé un fou avec une épée pour tuer son frère Sulayman. Ils l'ont fait rentrer sur lui dans la mosquée. Mais Allah l'a protégé. Et ça, c'est rapporté par le mufti des Hanbali, dans le livre qu'on a cité précédemment. Il lui a très bien répliqué avec les ayats et les hadiths et d'autres paroles de savants. Il a appelé sa réplique Faslul Khitab fi raddi ala Muhammad ibn Abdul Wahhab, montrant clairement que son frère Muhammad déclarait explicitement non-croyant toute la communauté, appelait les musulmans associateurs et se rendait licite leur sang et leurs biens. C'est-à-dire qu'il rendait permis le massacre et le pillage des musulmans, comme ils ont fait en Syrie, par exemple, ils égorgeaient à la chaîne les musulmans. Et il cite par exemple le mufti Shafi'i Zaini Dahlan, parmi ce qu'il faisait, quelqu'un, il faisait le salat al Nabi, un aveugle, il avait une belle voix après l'adhan, comme il fait dans les pays musulmans anciennement. Et Muhammad Abdul Wahhab, il a interdit cela, et il a ordonné qu'il soit exécuté, juste parce qu'il a fait le salat al Nabi, après l'adhan. Donc on verra les aberrations qu'ils font, pour bien comprendre ce qui se passe en fait. C'est pas donc ce qu'on vous montre à la télé comme un film, il y a Rambo à côté, etc. Non, c'est vraiment une secte qui a été faite par les Occidentaux, qui est entretenue jusqu'à maintenant. Donc voilà, on va s'arrêter juste avec ce paragraphe. Le fondateur du wahhabisme s'est concentré sur certains bédouins éloignés de la science. Ils se sont mis à croire que quiconque n'avait pas pour croyance ce que disait Mohammed ibn Abdul Wahhab était un non-croyant, un associateur dont le sang et les biens sont licites. Donc il a attiré des bédouins, et ils n'ont pas de science. C'est pour cela que Mohammed ibn Abdul Wahhab a envoyé quelqu'un pour surprendre et tuer son frère, le Cheikh Sulayman, car ce dernier le contredisait dans ses idées et dans ce à quoi il appelait, mais Allah l'a sauvé de son mal et de sa ruse. Et comme les wahhabites, ils attirent les ignorants. Souvent des gens de drogue, etc., ou des gens ignorants de la religion, ils tombent sur eux, sur internet ou dans des fréquentations, ils finissent mal. Comme on a vu, il y en a, ils sont égarés, ils pensent faire le bien. Et on a vu la règle, très importante, Dieu n'est pas obligé de guider qui que ce soit. C'est ça, donc la phrase correcte, Dieu n'est pas obligé de guider qui que ce soit, il guide et égare qui il veut. Et le fait d'apprendre cette science correcte, c'est une cause. Bien sûr, pour être, inshallah, guidé. Mais, bien sûr, c'est Dieu qui ouvre le cœur et ferme le cœur des gens. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Donc, nous, on fait la cause d'apprendre et de propager. On espère le bien. On ne connaît pas l'avenir. Donc, on fait les causes de la guider. Mais Dieu n'est pas obligé d'accorder à l'être humain ce qui est le mieux. Comme ça, pour ne pas dire pourquoi Dieu fait ceci ou cela. Donc, Dieu n'est pas interrogé, comme c'est dit dans le Coran, « La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun » Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, eux, ils seront interrogés. Donc, voilà, j'espère que c'est clair, révisé. Donc, on va passer... lire les traductions. Voilà, je regarde la dernière question. Non, ils ont dit, les savants, on regarde pas. Ils interdisent les savants à quelqu'un de novice de regarder. Donc de regarder les livres, parce qu'il peut être perturbé. Qui est autorisé à regarder les livres? Et souvent, ils regardent des manuscrits. C'est des gens compétents qui ont un très haut niveau de la science. C'est pas un simple diplômé de fac ou c'est quelqu'un qui a donc il a eu la transmission de grands cheikhs, etc. Il y a une chaîne de transmission, il a un certain niveau. Et il va pas s'égarer, il va regarder les livres et souvent c'est des manuscrits. C'est pas des simples impressions, des maisons d'édition. Donc, ils peuvent mettre n'importe quoi pour l'argent. C'est tout ce qu'on trouve à le marché, c'est imprimé sur Word. Il peut mettre ce qu'il veut. Donc, mais des savants, ils regardent les manuscrits. Ils vérifient, etc., etc. Donc, c'est ça. Donc, quelqu'un des débutants, ils regardent pas. Donc, ça, c'est interdit. Parce que ça le mène à l'égarement. Quelqu'un qui a appris le minimum de la religion, il est bien fort, et il va regarder pour, par exemple, voir ce que disent certains. C'est pas pour prendre, mais voir, par exemple, ce qu'ils ont dit dans tel verset, etc. C'est pas pour s'inspirer, pour se ressourcer de ces explications, non. Il faut absolument prendre des gens de confiance avec chaîne de transmission. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est très très important. Si on ne veut pas s'égarer, peu de choses validées vaut mieux que beaucoup non validées, disent les savants. Donc ça, c'est très très important. Beaucoup, ils sont égarés comme ça. Et comme j'ai montré les preuves, il y en a, ils pensent faire le bien, ils s'égarent. Dans sourate Al-Kahf, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ils pensent faire le bien, mais ils sont égarés. Donc, on est arrivé, on a vu les lettres, leur point de prononciation. Donc, ça a révisé ceux qui n'ont pas fait, n'ont pas vu. Donc, voilà les différentes lettres. Il y en a, ils sortent de la gorge, de la langue. Extrémité interne, milieu, fin, et le seul lettre qui se sort sur le côté, le vod, vo, bou, bruit. On a dit de s'entraîner, c'est important. On a vu les lettres de sifflement, sin, sod, zei. Donc c'est surtout les principales lettres en fait qui demandent beaucoup, un certain effort. La langue arabe c'est riche, c'est facile, c'est la meilleure langue, c'est la langue la plus facile, mais qui nécessite un effort. Donc on va faire les caractéristiques. Donc ça nécessite un effort personnel, bien sûr. Donc chaque lettre a une ou des caractéristiques. L'avis le plus fort, c'est qu'il y a 17 caractéristiques, dont 5 ont leur opposé. Donc, toujours, on renouvelle la bonne intention. Apprendre l'arabe par recherche de l'agrément de Dieu, c'est quelque chose de très bien qui fait gagner des récompenses. Et surtout, on a dit pour bien réciter la Fatiha qui est obligatoire sur chaque musulman. Et le reste du Coran, c'est recommandé. Et c'est une obligation d'ordre communautaire. Donc, il y a des caractéristiques des lettres. Du point de vue de la langue, il y a al-hams, ce qu'on appelle l'hams. Du point de vue de la langue, c'est le chuchotement. Donc là aussi, les mots dans le Coran ou dans la religion s'emploient des fois dans une signification purement linguistique. Dans le Coran, certains, on aura l'occasion d'en parler. Et des fois, dans des il y a la signification, il y a la signification religieuse. Comme le mot salat. Salat, on a vu, linguistiquement, c'est l'invocation. Et des fois, c'est employé dans ce sens linguistique, dans le Coran. Et religieusement, salat, c'est des actes qui commencent avec takbir, qui comprennent l'inclination, la prosternation, etc. Donc là, il donne pour chaque terme une signification linguistique et une signification dans la convention de cette science. Donc les lettres de l'Alham sont appelées ainsi car le souffle sort avec. Il y a un souffle qui sort puisqu'elles sont faibles au niveau de leur point de prononciation, elles sont au nombre de 10 rassemblées dans la parole de Al-Jazari. Donc, comme on l'a vu, ils mettent des phrases pour rassembler, où c'est chaque lettre de la phrase, des mots de la phrase, ou des fois c'est juste le début, chaque lettre initiale des mots qui composent la phrase. Donc là, c'est chaque lettre en fait. فحثه شخص سكت. C'est des moyens mnémotechniques en fait pour retenir. Donc, fa, if. Vous voyez, il y a de l'air qui sort, rien. If. Alors que ba, non, ib. 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 Donc, c'est comme ça, c'est le caractéristique même de la lettre. If. If. Il y a le souffle qui sort. Ha, ih, ih, fa, if, if, ha, ih, ih, sha, ish, ish, kha, ich, ich, sa, is, is, sa, is, is, ka, ik, ik. Donc on verra, il y a une autre caractéristique dans le cas qui s'applique. Ta, it, it, it. Donc c'est caractéristique. Donc le hams, il y a le jahr, le contraire. La sonorité du point de vue de la langue, c'est le fait de parler à voix haute. C'est la signification linguistique. Mais là, donc dans la science du tajwid, c'est donc ce sont les lettres de al-jahr sont appelées ainsi car elles empêchent le souffle, c'est-à-dire beaucoup de souffle. On empêche beaucoup de souffle, et toujours un souffle, de sortir car elles sont fortes et on appuie sur leur point de prononciation au moment de la prononciation du fait qu'elles sont fortes au niveau de leur point de prononciation. C'est autre que ces lettres-là, comme on a dit ib, ito. Donc autre que ces lettres-là, c'est les lettres d'al-jahr. Donc il y a le hams, il y a le jahr, et il y a donc une autre caractéristique, ash-shidda en arabe, le tonus. Donc du point de vue de la langue, c'est la force. Les lettres de ash-shidda sont appelées ainsi car elles coupent le son au moment de leur prononciation. Elles sont au nombre de 8, rassemblées dans la parole de al-jazari, donc al-jazari qui est un savant de la récitation. Ajid qatin bakat. A. Ja. Ij, ij, id, iq, it, ib. Il y a le kaf et le ta qui ont la caractéristique de al-hams en même temps. Ik. Donc ça bloque le son, mais après ça l'air, on lâche le souffle. Ib, ik, it. Donc le reste, alors, ça coupe vraiment. Elles ont Al-Shidda et Al-Jahar, donc c'est pour cela on fait ce qu'on appelle Qalqala, sauf le A, et on va dire Ij, Id, Iqo, Ito, Ib, Qutbu Jadin, c'est réuni dans Qutbu Jadin pour le Qa, et le Ta, le Ja, et le Da, et le Ba. Donc il y a Al-Shidda et l'inverse. Ar-Rikhawa, la faiblesse. Les lettres de Ar-Rikhawa sont appelées ainsi car le son se diffuse aisément en les prononçant. Donc il y a 29 moins 8, ça fait 21 lettres, dont 5 qui ont une imposition intermédiaire entre Ar-Rikhawa et Shedda. On les appelle les lettres de Al-Mutawassit, sont intermédiaires, rassemblées dans la parole de Al-Jazari, Lin Umar. Il, in, ça coupe pas en fait comme les autres. Ajit Khatin Bakat. Et ça laisse pas laisser ça ouvre pas comme Ish. Donc c'est intermédiaire. Comme le chat, par exemple. C'est pas comme le chat. Donc c'est ces lettres-là. Lin, Omar. Il, in, ir. Im, ir, din, Omar. Donc on a dit il y a les sons, il y a le hams. Donc ça fait y a plus de souffle qui sort. Fahathahu sharson sakat. Al jahr, c'est les autres lettres. Ça empêche beaucoup de souffle. Et il y a Ashidda, le tonus, sont fortes, vraiment, coupent le son. Ajid Qatin Bakat. Et le reste, Ar-Rikhawa, qui coupe pas le son. Mais il y a ce qui est intermédiaire, qui est Lin Umar. Il, in, ir, im, ir. Il y a l'Isti'la. Donc ça, donc en répétant bien sûr, c'est important de répéter. Elles sont appelées ainsi car l'arrière de la langue s'élève vers le palais en les prononçant. Elles sont au nombre de sept, rassemblées dans la parole de Al-Jazari, Khussa, Dhartin, Qiv. Ça fait un son grave. Kha, Sa, Dha, Gha, Ta, Qa, Va. C'est-à-dire les autres, on ne fait pas un son grave. On ne va pas dire ba, ha, ha. Non, ça on l'a vu l'autre fois. Mais ces lettres, oui. Kha, sa, va, ra, ta, ka, va. Donc le va, on l'a vu, c'est le bout de la langue avec les incisives supérieures. Alors que le va, côté de la langue avec les molaires. Les molaires, entre les molaires du haut et du bas. Le côté de la langue. De gauche, le plus facile. Ba, bu, bui. Donc, le contraire de l'estifel, l'estihla, l'estifel, l'abaissement. Donc, c'est les autres lettres. Ba, ma, ta. On va pas dire ba, ma. Al-itbaq, l'occlusion. Ces lettres sont appelées ainsi en raison de l'occlusion d'une partie de la langue sur le palais supérieur. Sa, c'est-à-dire que ba, pa, va, c'est elle est très proche donc la langue du palais. Sa, va, pa, va. L'infitah, autre que ces lettres-là. Al-Izlaq, c'est par référence au bout de la langue. Ces lettres sont appelées ainsi car elles sortent ou bien du bout de la langue ou bien du bout des lèvres. Farra min lub. Fa, ra, ma, na, la, ba. Un mot d'origine arabe de plus de trois lettres contient forcément une de ces six lettres rassemblés dans la parole de Al-Jazari. Donc c'est une règle en arabe. S'il y a plus de trois lettres, forcément il y a ces lettres et le bout de la langue. Pour faciliter la prononciation en fait. Al-Ismat, c'est autre que ces lettres-là. Donc un mot de plus de trois lettres ne peut donc être construit uniquement avec des lettres de Al-Ismat. Al-Ismat. Donc, comme on l'a dit, As-Safir, on l'a vu, les lettres de sifflement, elles sont appelées ainsi car ce sont les trois lettres dont le son est accompagné d'un sifflement semblable à celui d'un oiseau. Sa, is, za, iz, sa, is. Donc, au bout de la langue, entre les incisives supérieures et inférieures. Et le sod, on l'a vu, c'est un son grave. Sa, su, si. Ihdina siratul mustaqim. Siratul ladhina an'amta alayhim. Donc c'est important de s'entraîner dessus. Al-qalqala. Donc ces lettres sont appelées ainsi car, on l'a vu tout à l'heure, c'est les lettres qui ont en haut. Donc on revient en haut. Ils ont ashidda et ils ont al-jahr. Alors que le ka et ta, ils ont al-hams. Ils ont shidda et al-hams. Ik, it. Alors que les autres non, ils ont ashidda et al-jahr. Elle coupe le son et elle empêche beaucoup de souffle. Donc c'est pour cela on fait une règle qui est al-qalqala. Qutbu jadin. Iq, it, ib, ij, id. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. Donc, selon certains savants, le qa et le ta, la qalqala tombe vers la dhamma, et pour le dal et le ba et le jim, la qalqala tombe vers la kasra. Iq, it, ib, ij, id. Donc, al-lin, l'assouplissement, ces lettres sont appelées ainsi car elles sortent en douceur facilement sans avoir besoin d'un effort. Il concerne deux lettres pour lesquelles on fait un mad de deux haraka. Waw sakina et ya sakina dans le cas où elles sont précédées d'une lettre avec fatha. Yaoum, maliki yaoumiddin, alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Non, la Fatiha, donc c'est important. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc, à l'inhiraf, la divergence, il concerne deux lettres, lam et ra. Elles sont appelées ainsi car le son diverge vers le bout de la langue. La, il, ir, ra, ru, ri, la, lu, li. At-takrir, la répétition, concerne une lettre, ra. Elle est appelée ainsi car, car elle se répète sur la langue, surtout quand elle est doublée avec shadda. Il est indispensable de ne pas faire apparaître cette répétition. Comme on l'a vu, il faut que ce soit une douceur avec une ouverture au milieu pour que ça évite cette répétition, pour que ça fasse pas rrr. Donc ra, arra, arru, arri, arra, arru, arri. Bismillahirrahmanirrahim. At-tafashi, la diffusion, concerne une lettre, sha. Elle est appelée ainsi car le son se diffuse et se disperse au niveau du point de prononciation. Sha, shu, shi, ish, ish. Selon certains savants, il concerne aussi les lettres ma, fa, ra, fa, sa, sin, dod. Al-istitala, le prolongement, concerne la lettre dhad. Elle est appelée ainsi car le son de la lettre se prolonge au niveau de son point de prononciation jusqu'à au point du lam. Dhad. C'est la caractéristique de la lettre dhad. Dha, dhu, dhi, idh. Donc voilà pour les caractéristiques des lettres. Donc, comme on l'a dit, ça nécessite l'entraînement. Et il y a ce qu'on appelle la runna. La runna. Donc, la runna, la nasalisation, c'est un noun dissimulé. Noun qui sort du fond du nez. Quand on ferme le nez, ça sort plus. Donc, elle est utilisée dans la récitation. Donc, c'est quelque chose donc, qui fait partie des règles de la bonne récitation. Donc les endroits où elle est requise au niveau de la noun mushaddada, doublée. Inna, inna, inna. In. Si tu fermes le nez, il sort pas bien. In, inna. Ou bien mim mushaddada, tel que lamma, lamma, lamma. Si tu fermes le nez, il y a un manque. Lamma, car il y a une partie de l'air qui sort par le nez. Lamma. Donc, au niveau du mim sakina suivi d'un ba. Ambih, ambih. Il y a un mim sakina et derrière un ba. Donc on fait le tanwi et le runna. Ambih, deux temps. Au niveau du nun sakina ou tanwin suivi des lettres autres que celles de al-halq. Donc on a vu les lettres qui sortent de la gorge, larynx, le A, le H, le A, le Ha, le Ra et le Kha. C'est ce qu'on appelle les lettres de la gorge. Quand il y a un Nun Sakina, In ou Tanwin, comme Bun, Tun, Fun, et derrière il y a In, c'est six lettres, qu'on a dit A ou Ha ou A ou Ha ou Ra ou Kha, là on ne fait pas cette nasalisation. Min ilah, parce qu'il y a le A derrière le in. Mais quand il y a autre que cela, on fait une nasalisation. Le tanwin, tanun sakina détecté à l'ouïe mais pas à l'écrit. Le tanwin c'est bun tun fun. On ne voit pas le nun là qu'on entend, mais c'est écrit avec deux dhamma qui se suivent ou deux kasra qui se suivent ou deux. Donc on a vu ici les harakat dhamma fatha kasra. Donc on travaillera sur ce PDF aussi que l'on peut télécharger sur on mettait langue arabe dans la recherche, c'est niveau 1. Donc alors la runa se fait sur une durée de 2 haraka. Par convention, une haraka équivaut au temps que dure la flexion d'un doigt. Après, c'est un rythme, selon on récite lentement ou non. Il faut garder le même rythme. Donc, un runa de temps. Inna, inna, lamma, lamma. Donc, on répète le point 3. Au niveau du nun sakina ou tanwin suivi de lettres autres que celles de l'halq. Autre que les six lettres de l'halq et autre que lam et ra. Parce que lam et ra, on ne fait pas tanwin, on fait un doublement. Comme on l'a vu tout à l'heure. Wa lam yakun lahu. Ça se lit. Wa lam yakun lahu. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Comme dans Shahadatayn. Ashhadu an la ilaha illallah. À l'origine, c'est an, an la, ça se prononce alla, et wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. À l'origine, c'est Muhammadan Rasulullah. Comme il y a le nun sakina du tanwin Muhammadan, on fait un idgham Muhammadan Rasulullah. Donc là, il n'y a pas de runna parce que c'est tanwin suivi d'un lam ou d'un ra. Donc il faut réécouter plusieurs fois. Donc ça reste en ligne le cours et puis l'audio elle sera envoyée dans l'application inchallah et elle sera mise sur le site pour écouter plusieurs fois. Donc certains ils ont envoyé sur des audios pour se faire corriger. Donc sur Telegram on peut envoyer donc et ceux qui connaissent directement des gens qui maîtrisent, des gens de confiance, ils peuvent répéter avec eux. Donc, voilà pour les points de prononciation. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, après, je regarde une question. Aminu fikum, pour tous ceux qui disent Barakallahu fik. Alors, salam alaikum, donc c'est marqué. Ah, s'il faut inclure dans le groupe Wahhabite ou sont également ou sont également à donner naissance. Non, lui il existait, Ibn Taymiyyah, j'ai dit tout à l'heure, donc il existe avant les Wahhabites. Il y a plusieurs siècles. Il a philosophé, etc. On donnera des détails. Et il a été jugé par les quatre juges. Ibn Battuta, le grand voyageur marocain très connu, il a assisté quand il y a une fois dans une mosquée, il a dit de l'égarement et les gens l'ont frappé avec des chaussures, etc. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. Et eux, ils le prennent comme un prophète, les Wahhabites. Donc c'est leur référence incontestable. C'est en fait... des Wahhabites, c'est Ibn Taymiyyah. Donc c'est d'abord Muhammad ibn Wahhab qui lui sa référence c'est Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim. Donc ils ont laissé toute la communauté de savants, ils sont attachés à deux personnes, alors que le prophète nous montre que n'importe qui peut se tromper, il n'y a que le prophète. Et ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes, comme il a dit, donc le quatrième calife. Et maintenant, il travaille avec les autres sectes. Il a dit clairement, MBS, on travaille avec les chiites, il a dit au journal. Et il travaille donc avec le secte extrémiste, aussi, on a dit, la secte de Saïd Qutb. Voilà, donc on en reviendra, Inch'Allah. Relisez l'article aussi. Après, question, si on en parle comme il faut, ça... Oui, pour le Coran. Si il déforme les lettres, c'est interdit. Il a un péché au lieu d'avoir des hasanettes. Donc il faut aller par étapes. C'est pas je veux faire tout, apprendre tout, le réciter tout le Coran et ça y est, je veux tout faire, mais je veux pas apprendre. Je veux tout que ça arrive comme ça. Non, il faut passer par l'étape, par apprentissage. Et ça prend du temps, mais... pour vous encourager, on connaît des gens, des convertis maintenant, ils parlent français, l'arabe facilement, parce qu'ils ont fait cet effort personnel. Au moins, tu pourras lire le mushaf directement. Je connais des gens, et ils sont même pas partis d'un pays arabe, juste des cours qu'on a donnés ici, et puis ils lisent le mushaf directement avec les règles de tajwid. Mais il y a un effort personnel. Donc ça, on y reviendra, les règles de la Nun Sakin et du Tanwin. Donc c'est utiliser une nasalisation. Donc il y a, parmi les entre guillemets, points de prononciation, il y a une nasalisation. Donc la Runa, voilà, donc comme on peut se montrer ici, la Runa, ça sort du nez, dans le Nun et le Mim. Inna, lamma, inna, inna, lamma. Donc, voilà, donc réviser le point de prononciation des lettres, répéter, c'est important. Une fois qu'on a maîtrisé, c'est facile. Mais il faut passer par ce stade-là. Parce qu'on l'a dit, la Fatiha, c'est obligatoire, que celui qui néglige, sa prière, elle n'est pas valable, il doit rattraper. Au début, alors ils ont dit quelqu'un, par exemple, il veut faire la prière, parce que sur la personne pubère, c'est un esprit, la prière c'est obligatoire tout de suite. Quelqu'un qui veut se laisser convertir, il prie tout de suite, même si c'est pas, ils ont dit, les savants ils ont cité, comme dans Mayar a cité, le livre très connu dans le Maghreb, Mayar, le commentaire de Matn al-Mu'asher, qui était enseigné dans les grandes mosquées. C'est un grand savant de Fès, on en a parlé précédemment. Il cite ce point-là. Si il ne sait pas réciter la Fatiha, il va dire une évocation qui va remplacer le nombre des lettres de la Fatiha. Il y a des preuves qu'ils ont du hadith. Donc, comme il va dire 19 fois Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il va répéter pour remplacer le nombre des lettres de la Fatiha. En attendant, il doit apprendre en parallèle, bien sûr. La Fatiha est obligatoire, toutes les autres sourates, c'est pas obligatoire d'ordre personnel sur chacun. Donc il faut prendre le temps qu'il faut pour bien maîtriser ces lettres-là. C'est un travail quotidien au début, après on maîtrise. Donc on a vu les harakat et le sukun. Les harakat, c'est le son, la dhamma, on a dit. Comme dans bou, tou, mou, c'est représenté par ce petit signe. La fatha a un petit trait en haut. Ba, ta, ma, c'est le son A, si on peut dire. Et le kasra, c'est le son I. C'est un trait en bas de la ligne. Bi, mi, fi. Et wa sukun ziddu al-harakati wa alamatuhu da'iratun saghiratun turusamu fawqa al-harfi. Il n'y a pas d'absence de voyelle, le sukun, et c'est désigné par un petit rond sur la lettre. Ib, it, im. Aliphone, voilà l'alif. Par exemple, vous pouvez télécharger l'imprimer, ou carrément quelqu'un il a une tablette, il met un papier, ça, par transparence, il va refaire en réécrivant par-dessus. Ça aide à maîtriser. Alif. Donc, voilà, c'est l'alif, son nom, aliphone. À la fin, pour la prononciation, comme dans ba, ta, tout seul, au début, il peut être comme ça, avec l'hamza au-dessus, à la fin, ou quand une lettre qui s'attaque, donc on va dire, comme fa à la tonne, donc il y a un support. Donc des fois, alif c'est utilisé pour la prolongation ou support du hamza. Donc a, ça peut s'écrire comme ça, ça peut s'écrire comme ça, tout seul sur la ligne, le hamza. Sur un ya aussi comme ça. Et comme ça en bas, le hamza en bas pour surtout quand il y a une kasra. Et sur une wa ou quand il y a une dhamma. Et au milieu sur un ya. Donc remarquez que cette lettre ne s'attache jamais avec celle qui la suit. Alif. Donc souvent ils sont ensemble, alif, mais quand il y a la prolongation, il n'y a que l'alif. Donc darun, darun, abi. Maison, donc darun, donc il y a la prolongation, le alif il est là. Abi, mon père, donc là c'est un support pour la hamza, là c'est pour la prolongation. Babun, là c'est pour la prolongation, porte. Ummi, là c'est pour la hamza. Sayyaratun, là c'est pour la prolongation. Zarafatun, c'est pour la prolongation. Ma'un, o, pour la prolongation. Donc girafe, zarafatun. Donc fa'run, voilà, ici pour support de la hamza comme on l'a vu tout à l'heure. Fa'run, souris. On dit fa'ratun aussi. Kitabun, livre, voilà, il a la prolongation. Anfun, nez. Rassamun, peintre ou dessinateur. Qitarun, là c'est prolongation, train. Ra'sun, tête, là c'est support de la hamza avec sukun. Ardun, terre, là c'est le début du mot. Donc là l'écriture, uktub harf al-alif hasab al-amthilati al-taliya, recopie la lettre, écrit la lettre alif comme indiqué, comme les exemples suivants, c'est sa traduction. Vous pouvez écrire plusieurs fois, vous voyez, avec des lignes comme ça, ça facilite. Ou sur un cahier. Alif. Donc là, plutôt, on va comme ça c'est bon. On part de ligne de base. On fait deux et demi comme ça. Deux et demi. Deux et un peu. Voilà. Donc pour l'alif, donc on reprendra, on fera comme j'ai dit arabe, donc et tajwid, parce que c'est lié quand même, ça aide à s'habituer sa langue. Donc voilà, réviser bien, donc ça nécessite un effort, mais si la personne persévère, inchallah, ça donnera des résultats. Donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et donc on reprendra les détails. Donc trouvez sur le site, je pense que vous voyez le lien. Donc il suffit de faire une recherche en haut. Donc sur la chaîne maintenant Telegram, on peut poser des questions directement dans le commentaire. Donc voilà. Donc on verra les détails sur sur ce qu'on a dit. Inch'Allah. Pour que la personne donc connaisse les règles très importantes et ne suit pas comme ça aveuglément les choses. Donc relisez bien, réécoutez bien. Donc les savants ont dit l'intelligent il a besoin, même quelqu'un d'intelligent qui comprend du premier coup, de réviser entre 5 et 10 fois. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. On arrive vers la fin. Si une question de précision, donc comme ça. Donc le prophète alayhi salatu wassalam il a dit man yuridillahu bi khayran yufaqihuhu fi ad-din, c'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc et il dit innamal ilmu bit-ta'allum, c'est-à-dire certes la science de la religion c'est par transmission orale. Donc la science de la religion s'apprend de sources sûres, de gens de confiance. Donc Avec un peu, la personne elle avance donc sûrement sur des règles fiables. Et la personne, bien sûr, se rappelle l'au-delà, qu'elle va rendre des comptes et que la mort ne prévient pas et le regret ne profite pas donc après la mort. Donc il faut maintenant se remettre en question et prendre les bonnes résolutions. Donc la bonne manière, comment on apprend, par chaîne de transmission. Donc il y a ceux qui demandent d'autres cours, on a d'autres cours, donc bien sûr. Il y a des gens de confiance qui donnent des cours, qui enseignent, qui font des suivis. Donc on peut diriger vers d'autres cours, Inch'Allah, la personne, pour qu'elle avance. Donc Allah Ta'ala dit, « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا » Dit oh Allah, augmente ma connaissance. Donc ça c'est dans le Coran. Car la science de la religion c'est la cause pour être sauvé dans l'au-delà. Apprendre et appliquer. Donc apprendre et appliquer, c'est comme ça que la personne sera sauvée. Ce n'est pas juste par le simple le fait d'espérer tout simplement. Parce qu'il y a un hadith qui dit cela. Al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'da al-mawt. Wal-'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amani. C'est-à-dire l'intelligent, celui qui s'est rendu des comptes à lui-même, qui a œuvré pour ce qui vient après la mort. Et l'incapable, c'est celui qui a suivi ses passions et il a espéré être gagnant. Il espère le miséricorde de Dieu sans faire les causes. Donc ça, c'est pas suffisant. Donc c'est pas suffisant cela. Donc il faut apprendre et pratiquer. Et par apprendre par transmission. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم والسلام عليكم